Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle de l'impact de nos héritages psycho-émotionnels familiaux sur notre relation à l'argent. C'est-à-dire que je vais vous donner quelques pistes pour comprendre comment votre relation à l'argent peut être liée à votre histoire familiale. Les difficultés dans la relation à l'argent peuvent être de toutes sortes. Ceux qui ont toujours peur de manquer, ceux qui dépensent à tort et à travers en futilité, ceux qui dépensent en offrant des cadeaux aux autres mais qui n'arrivent pas à se faire plaisir à eux-mêmes, ceux qui ne s'autorisent pas à en gagner, ceux qui ne font jamais leur compte, ceux qui n'arrivent pas à se faire payer à leur juste valeur, etc., etc. L'idée, c'est donc de s'interroger sur ces difficultés et d'essayer de comprendre d'où elles viennent. Tout d'abord, une petite parenthèse sur la dimension culturelle. Dans notre pays, empreint de culture catholique, l'argent reste un sujet tabou. Et même plus, dans l'inconscient collectif, avoir de l'argent serait presque une honte. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, nous dit Jésus. Le cadre est posé, il ne fait pas bon être riche dans nos contrées. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que là où en France il n'est pas question d'évoquer en public le montant de son salaire, aux États-Unis c'est au contraire hyper valorisant, puisque gagner beaucoup d'argent veut dire qu'on a réussi dans la vie. Bon, évidemment, ça pose d'autres questions sur ce qu'on entend par réussir sa vie, je ne me lancerai pas dans un débat philosophique à ce sujet, mais force est de constater que notre relation à l'argent est tout d'abord fortement influencée par notre milieu socio-culturel. Pour en revenir au sujet principal de cet épisode, les difficultés en lien avec l'argent peuvent tout d'abord être liées tout simplement aux croyances familiales. Comment parlait-on d'argent dans votre famille ? On trouve toutes sortes de croyances au sujet de l'argent. Si vous avez grandi dans une famille où on vous a répété depuis l'enfance que l'argent n'apporte que du malheur, mieux vaut ne pas en avoir. C'est sûr qu'il peut vous être difficile soit de gagner de l'argent, soit de le garder. Si on vous a répété que pour réussir sa vie, il faut avoir un travail qui rapporte, vous aurez sans doute du mal à vous engager dans une activité qui vous plaît mais qui n'est pas hyper lucrative. Si vous avez entendu toute votre enfance qu'il faut mettre de côté, qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, vous risquez de devenir un hyper épargnant, incapable de se faire plaisir. Dans les familles fortunées, il peut y avoir aussi cette croyance que les gens ne vont s'intéresser à toi que pour ton argent, qui peut provoquer une méfiance excessive vis-à-vis du monde extérieur. Sans être directement formulées, certaines croyances sont ancrées en vous à travers votre expérience de vie. Si vos parents ont toujours manqué d'argent, vous pouvez avoir tout le temps l'impression de manquer alors que vous gagnez correctement votre vie. Et d'ailleurs, même si vous gagnez plus, cette impression de manque sera toujours présente. A l'inverse, vous pouvez tout mettre en œuvre pour gagner beaucoup d'argent, pour prendre votre revanche sur la vie et réparer l'histoire familiale. D'autres expériences peuvent être marquantes. Si par exemple, vous avez eu l'impression de toujours passer après le travail de vos parents qui leur permettait de gagner beaucoup d'argent, vous pouvez avoir développé une relation ambivalente à l'argent. Si vous avez choisi un métier en relation avec l'argent comme banquier, comptable, courtier, vous pouvez vous interroger sur les raisons de ce choix. Fallait-il sécuriser la famille au niveau financier ? Fallait-il bien compter pour éviter les faillites ou le surendettement ? D'autres représentations sur l'argent peuvent être en lien avec le mythe familial, ce que la famille transmet de génération en génération au sujet de l'argent à travers le récit de l'histoire familiale, qui, je vous le rappelle, est toujours romancé. Les histoires, vraies ou un peu arrangées, que la famille véhicule peuvent créer des croyances fortes par rapport à l'argent. Comme par exemple l'histoire de ce grand-oncle qui avait beaucoup d'argent, mais qui a été malheureux toute sa vie car ne sont venues à lui que des femmes intéressées par son argent. Ou de cette femme qui n'avait jamais pu divorcer de son mari car elle ne travaillait pas et n'avait aucun moyen financier. Si l'on rentre un peu plus profondément dans la question de l'héritage transgénérationnel, certains événements dans la vie de nos ancêtres, qui créent des chocs émotionnels puissants, s'ancrent profondément dans l'inconscient familial et peuvent peser lourd dans notre représentation de l'argent. Quand un héritage est injustement partagé, par exemple, il marque profondément du sceau de l'injustice et du ressentiment les générations suivantes. En plus des difficultés relationnelles que peuvent poser le sentiment d'injustice et la colère, les descendants qui ont été lésés peuvent soit passer leur vie à essayer de réparer cette injustice en accumulant le plus d'argent possible, soit développer la croyance que l'argent, ce n'est pas pour eux. De leur côté, les descendants favorisés peuvent avoir un sentiment de culpabilité à posséder cet argent ou ce patrimoine qui peut les pousser à le dilapider de façon complètement inconsciente, en faisant de mauvais placements par exemple. Il est toujours intéressant dans ce cas d'aller voir ce que dit ce partage injuste de l'histoire familiale. Ce peut être un secret de filiation, une dette morale du parent vis-à-vis de l'enfant qui est favorisé, ou la reproduction d'un schéma sur plusieurs générations. On trouve aussi dans certaines familles des faillites retentissantes qui ruinent la famille sur plusieurs générations et qui plongent les générations suivantes dans une recherche de sécurité financière à tout prix, paralysant toute forme de prise de risque et d'entrepreneuriat. Et bien sûr, lorsqu'une faillite est passée sous silence, par le mécanisme des transmissions invisibles, il se trouve toujours quelqu'un dans la famille pour la répéter de manière totalement inconsciente. Dans certains cas, des deuils non faits bloquent la famille dans une sorte de marasme, soit qu'un des membres de la famille bloque l'héritage et empêche ainsi toute la famille d'en bénéficier. Ce peut être le cas par exemple lorsqu'un enfant refuse de se séparer d'une maison ayant appartenu à son parent. Soit que les membres de la famille aient des difficultés à reprendre le chemin de la vie par loyauté au disparu qui, lui, ne peut plus vivre. Dans le cas où l'argent est acquis par le clan familial suite à des malversations, dans le cadre d'activités éthiquement questionnables, l'inconscient familial retient la culpabilité, ce qui peut amener les descendants à se débarrasser inconsciemment de ce patrimoine embarrassant. « Bien mal acquis ne profite jamais », nous dit le proverbe. Ici aussi, ce peut être dans le sens d'une dilapidation ou d'une transformation pour réparer. Dans un autre registre, j'ai rencontré plusieurs fois des personnes dont un des ancêtres n'avait pas été autorisé à épouser un conjoint fortuné, en raison de son appartenance à un milieu social moins favorisé. Le message retenu par l'inconscient familial est alors « Dans cette famille, nous n'avons pas le droit à la richesse ». Il m'arrive aussi d'accompagner des personnes dont un ancêtre est un enfant illégitime, fruit de la relation entre un riche noble et une servante, ce qu'on appelle les amours ancillaires, et qui portent encore en eux, des générations après, ce sentiment d'illégitimité qui peut se traduire par la croyance inconsciente que l'argent, ce n'est pas pour moi. Je n'y ai pas droit. Emmanuel Ratui, analyste transgénérationnel, donne un exemple frappant dans un article publié sur le site Généascence. Celui d'une femme qu'il a reçue en consultation qui n'arrivait pas à garder l'argent. Il lui filait entre les doigts, pour ainsi dire. Après avoir fait des recherches généalogiques, elle a découvert que son arrière-grand-mère était tombée enceinte suite à une relation avec un jeune homme issu d'une famille aisée, qui n'a pas accepté leur mariage, et a proposé de garder le bébé, moyennant une importante somme d'argent. Je vous laisse imaginer le puissant sentiment de culpabilité d'avoir vendu son bébé, qui a habité cette femme toute sa vie et qui s'est transmis de génération en génération. Enfin, si vous vous questionnez sur votre relation à l'argent, il est intéressant également de se pencher sur votre projet sens, c'est-à-dire sur le programme de vie qui vous a été transmis dès votre conception. Je vous renvoie à l'épisode sur ce sujet. Il arrive souvent que les enfants qui n'ont pas été désirés et auxquels les parents ont bien fait comprendre qu'ils n'avaient pas leur place dans la famille développent un sentiment d'illégitimité qui va venir compliquer leur relation à l'argent avec cette croyance inconsciente « je n'y ai pas droit comme je n'ai pas eu droit à l'amour de mes parents et à ma place dans cette famille ». Comme l'explique très bien Christian Junot, coach spécialiste dans les relations à l'argent dont je vous parlerai en fin d'épisode, c'est cette croyance fondamentale « je n'ai pas le droit de recevoir » qui va se manifester ensuite toute leur vie, notamment par une incapacité à se faire payer à leur juste valeur. Les loyautés familiales pèsent aussi beaucoup dans notre relation à l'argent. Il n'est pas rare que par loyauté à mon clan, je ne m'autorise pas à réussir financièrement. En d'autres termes, ne pas avoir d'argent ou perdre son argent, c'est une manière d'être fidèle à l'histoire familiale. C'est ainsi qu'en se penchant sur certaines histoires, on peut identifier des schémas répétitifs. Des faillites qui se reproduisent au même âge de génération en génération, des femmes qui se marient avec des hommes qui ont le même rapport à l'argent que leur propre père, des hommes qui dépensent tout leur argent pour aider leur épouse, comme l'ont fait les hommes de leur famille avant eux. Par fidélité familiale inconsciente, certaines personnes vont s'interdire de réussir mieux que leurs parents, ce qui se manifeste souvent par des comportements d'auto-sabotage, comme oublier de mettre son réveil le jour d'un concours, tomber malade le jour d'un entretien de recrutement. D'autres vont se débrouiller pour perdre ce qu'ils ont gagné, en plaçant leur argent auprès de financiers véreux ou en finançant toutes sortes de projets voués à l'échec. Il arrive aussi, et c'est ce que le sociologue Vincent de Gaulle-Jacques évoque dans son ouvrage « La névrose de classe », que ceux qui réussissent financièrement beaucoup mieux que leurs parents vivent mal ce changement de milieu social et éprouvent un profond sentiment de culpabilité d'avoir ce que leur famille n'a pas. S'en suivent alors notamment des conflits dans le rapport à l'argent et un sentiment d'illégitimité qui peut se transmettre sur plusieurs générations. Je rencontre également souvent des femmes qui ne s'autorisent pas à réussir par loyauté inconsciente aux femmes de leur famille, qui ont sacrifié leurs propres envies pour se consacrer à leur vie de famille. N'oublions pas que les femmes gagnent de l'argent depuis une période assez récente et que même si certaines de nos grand-mères ou arrière-grand-mères travaillaient, c'était le plus souvent pour un revenu d'appoint. C'est pourquoi un couple peut encore aujourd'hui vivre difficilement le fait que la femme rapporte plus d'argent que son mari. Quand on s'interroge sur notre relation à l'argent, il est aussi intéressant d'aller regarder dans le grand livre des comptes familiaux. Cette notion, développée par Ivan Bozormeni-Nagy, met en évidence que dans une famille, il y a des dettes des uns envers les autres, qui sont répertoriées de génération en génération dans une comptabilité familiale inconsciente. Bien sûr, il ne s'agit pas ici que d'argent, mais en se penchant sur les dettes des uns envers les autres au sein de la famille, certains aspects de notre relation à l'argent peuvent s'éclairer. Par exemple, tant que je suis financièrement dépendant de mes parents, j'ai une dette envers eux qui peut être un frein pour faire mes choix en toute autonomie. Donc dans ce cas, l'argent peut être perçu inconsciemment comme un outil de domination. Pour aller un peu plus loin dans cette réflexion sur notre relation à l'argent, il est intéressant de se questionner sur nos représentations sur l'argent. Que représente l'argent pour nous et pour l'inconscient familial ? L'amour, l'affection, l'énergie, la réussite, le pouvoir, la liberté. Quand je cours après l'argent, après quoi je cours? Quand j'ai constamment peur de manquer, de quoi ai-je peur de manquer? Ou de quoi ai-je manqué? Dans l'inconscient, amour et argent sont souvent liés. D'ailleurs, on voit souvent dans le cadre des successions que l'enfant qui a le sentiment d'avoir été le moins aimé est celui qui demande le plus d'argent, comme si une part plus grosse de l'héritage pouvait compenser symboliquement ce manque d'amour. Le sentiment d'insécurité par rapport à l'argent renvoie souvent à une insécurité affective. J'ai besoin de me rassurer avec de l'argent car je manque de ce sentiment de sécurité intérieure qui se construit dans l'enfance auprès des parents. Pour certains, l'effet sera inverse. Si je cherche à combler ce vide intérieur par autre chose, des cadeaux que je me fais par exemple, je peux devenir dépensier ou dépensière compulsive. La peur de manquer peut aussi être révélatrice d'un manque de confiance en soi, en sa capacité à rebondir, à trouver une solution en cas de problème, dont les racines peuvent se trouver également dans l'enfance. L'argent peut aussi être lié à des représentations plus négatives, la domination, l'injustice sociale, ce qui rend fou, ce qui m'a privé de mes parents. Quand je m'interdis d'avoir ou de garder de l'argent, qu'est-ce que je m'interdis? Au nom de quoi est-ce que je me prive d'argent? Vous l'aurez compris, s'interroger sur sa relation à l'argent, c'est ouvrir une porte sur la connaissance de soi. Alors comment me libérer de ces croyances et loyautés familiales par rapport à l'argent? Comme toujours, comprendre l'histoire familiale et ce dont on a hérité est une première étape pour travailler sur sa relation à l'argent. Plus précisément, il est intéressant d'essayer de comprendre l'articulation entre ce que j'ai reçu comme héritage psycho-émotionnel et ce que j'en ai fait en fonction de mon propre vécu, de mon caractère, de ma sensibilité. En effet, vous l'avez entendu tout au long de cet épisode, une même situation familiale par rapport à l'argent peut donner lieu à des centaines de types de relations différentes avec l'argent et l'abondance financière en général. Après avoir identifié ses propres croyances limitantes, vient le temps de les dépasser, seul ou avec l'aide d'un thérapeute. Et bien sûr, de soigner ses blessures plus profondes en lien avec l'argent, les manques de l'enfance, le vide intérieur, le manque d'amour de soi, le sentiment d'abandon, de trahison ou d'injustice, pour pouvoir rétablir une relation plus saine avec l'argent. Si vous voulez en savoir plus sur cette question des liens entre argent et transgénérationnel, vous pouvez lire l'ouvrage de Marie-Noëlle Maston-Lerat qui s'intitule « Psychogénéalogie, relation à l'argent et réussite ». Et pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent approfondir la réflexion plus globale sur leur relation à l'argent, je vous invite à vous intéresser au travail de Christian Junot, coach spécialisé dans la relation à l'argent, qui a publié plusieurs ouvrages et enregistré de nombreux podcasts passionnants sur le sujet. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.